La Recherche Autrement, une collection de reportages à la découverte des recherches participatives en Bretagne. Les radios associatives adhérentes à la CoreLab vous font découvrir 8 projets soutenus par la région Bretagne dans le cadre des appels à projets Recherche et Société, visant à renforcer le dialogue entre les acteurs de la recherche et la société civile et ayant pour objectif de répondre à des problématiques sociales, culturelles, économiques ou encore environnementales. Entrez dans les coulisses des recherches participatives en Bretagne et appréhendez l'innovation sociale sous toutes ses formes.
On a beaucoup de chance dans le quartier du Guivinec d'avoir pu préserver des places de port qui sont encore vivantes, qui font vraiment partie du paysage, de l'identité du territoire. Et c'est un vrai poumon, un poumon économique d'une part, et puis au niveau social, c'est indispensable en fait finalement à la vie toute l'année d'avoir ces ports qui sont encore là, qui se maintiennent malgré la crise actuelle qui est très forte, parce que ça crée de la vie, ça crée des échanges et ça c'est unique en fait de vivre ces moments-là. Le retour des bateaux le soir qui arrivent avec la pêche du jour, les langoustines qui frétillent. C'est un magnifique spectacle en fait.
Dans cet épisode de La Recherche Autrement, nous partons dans le pays Bigoudin, au quartier maritime du Guilvinec. Le projet de recherche action participative Pêche-Cœur y est porté par la société GLAZ avec pour objectif initial de travailler avec les professionnels de la pêche sur les transformations du métier et l'amélioration de la santé et du bien-être au travail. Conçu en concertation avec des acteurs de la santé et de la prévention des gens de mer et avec 2 laboratoires de recherche universitaires, le LIRIS, laboratoire de sociologie de Rennes 2, et le LabStick, spécialisé notamment dans la recherche en ergonomie et gestion des risques. Pour parler de la genèse de Pêche-Cœur et du chemin parcouru avec les marins pour définir un terrain de recherche et de réflexion, nous allons à la rencontre de Lauriane Lecossec, présidente et fondatrice de la société GLAZ, Stéphanie Brulé-Josseau, psychologue du travail, et Karine Olivier, référente scientifique en sociologie.
Le monde de la pêche, eh bien, en fait, je suis née dedans, parce que mes parents travaillaient tous les deux à la crie de l'Octudie. Donc moi, tous les soirs, après l'école, j'allais voir la vente de la criée, parce que mon père c'était le marqueur de la criée, donc on, tous les soirs on regardait émerveillé les bateaux rentrer, toute l'ambiance autour, c'était très vivant, très animé, et mes oncles étaient tous patrons pêcheurs, donc j'ai grandi vraiment dans cet univers. Lauriane Lecossec, je suis la fondatrice et présidente de GLAZ, qui est basée en Sud-Finistère sur le port de l'Esconil. Alors GLAZ, c'est un cabinet d'expertise maritime qui accompagne les marins sur les enjeux du quotidien, c'est-à-dire l'accompagnement sur la prévention des risques en mer, l'accompagnement sur la transition numérique et environnementale. GLAZ est issu d'une association qui s'appelait Maillage, qui avait été créée au port de l'Octudie en 2014. Et c'est un projet qui était à l'initiative des patrons de pêche locaux à l'époque et des armateurs. C'est un projet qui part du port et qui a évolué. Concernant Pêche-Cœur, effectivement, il y a une histoire qui est sympathique, c'est que Stéphanie m'a contactée, Stéphanie Brulé-Josseau, la psychologue du travail, m'a contactée à l'époque. On a tout de suite eu des connexions, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de travailler ensemble, parce qu'on avait une appétence pour certains sujets, et notamment la qualité de vie au travail, les conditions de travail sur les navires de pêche. Qu'on s'intéresse à des problématiques de qualité de vie à bord, en fait.
Alors moi, je m'appelle Stéphanie Brulé-Josseau, je suis psychologue du travail et ethnologue. Le projet Pêche-Cœur, il est né du constat qu'il y avait très peu d'espaces de discussions, de paroles sur l'organisation du travail à bord. C'est-à-dire que le métier de la pêche est un métier dangereux et on s'intéresse surtout à la prévention des risques au niveau individuel et aussi prévention des risques au niveau du bateau, des aménagements, etc. Mais il y a peu d'espace de discussion et de travail sur l'organisation du travail. En quoi l'organisation du travail à bord a un impact sur le travail. Et donc l'idée du projet Pêche-Cœur, c'est d'apporter un espace de discussion sur les liens entre le vécu du travail à bord et l'organisation du travail à bord. Et on a co-construit également avec Pascal Perron, qui est également dans le projet de recherche action en tant que facilitatrice et qui est mon binôme dans les enquêtes cliniques. Eh bien, on a conçu l'ingénierie de ce projet de recherche action, dont la particularité est que ceux qui produisent les données d'enquête, de réflexion, ce sont les acteurs de la pêche eux-mêmes. Donc, ce ne sont pas les chercheurs dans ce projet qui vont au contact des marins et produisent de données, comme c'est le cas classiquement. Non, ce n'est pas ça. C'est Pascal et moi-même qui sommes dans une logique, dans une méthodologie qui s'appelle la psychodynamique du travail, qui est inspirée de la psychodynamique du travail. Et nous allons à la rencontre des marins. Et en fait, le dispositif, c'est d'accompagner les marins dans la production d'une réflexion sur leur situation.
Moi, je m'appelle Karine Olivier, je suis maîtresse de conférence en sociologie. Je suis aujourd'hui en poste à l'Université Rennes 2, au laboratoire LIRIS, qui est le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les innovations sociétales. Je suis spécialiste des questions de travail, de profession, d'organisation, de marché du travail en général. Mes travaux portent sur les organisations professionnelles, les trajectoires des travailleurs et des travailleuses, et la manière aussi dont les collectifs professionnels, les groupes professionnels au sens large, vont se constituer, pourquoi pas disparaître, évoluer. Voilà. Je travaille encore aujourd'hui beaucoup sur les éleveurs et également donc je suis présente sur le projet Pêche-Cœur qui porte sur les pratiques, les évolutions des pratiques des métiers de la pêche. Avec au départ l'idée qui était de travailler sur la question de la dangerosité du métier, sur les pratiques à risque et du coup sur la question de la prévention de la santé des gens de mer, sujet qui était extrêmement difficile à traiter. Alors c'est un projet de recherche-action. L'objectif c'est de pouvoir à la fin agir. L'objectif était de co-construire le projet, de co-construire la recherche avec les acteurs.
Bah ici, la filière pêche est historique parce que il y a déjà 80 ans, en fait, les marins partaient, les hommes partaient en mer quand il faisait beau et quand il faisait moins beau, ils restaient à terre cultiver leur bout de terre. Donc c'était vraiment une activité nourricière. C'est vraiment un métier qui est lié au territoire. C'est également le premier port de pêche artisanale français. Donc là, je parle du port du Guilvinec. Il y a tout le quartier maritime autour, avec les ports de Loctudie. Bon, l'Esconie, il a fermé il y a quelques années. On a le port de Saint-Guénolé. Le port du Guilvinec est également le troisième port français après Boulogne-sur-Mer et Lorient. C'est vraiment une place importante au niveau de la filière pêche. Et au niveau des métiers, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas un marin, il y a 1000 marins. Et chacun a sa manière de travailler. Quand on parle des bateaux ici, on a une vraie diversité parce qu'on a des chalutiers qui partent plusieurs jours, jusqu'à 15 jours, qui vont pêcher des poissons très spécifiques. Ensuite, on a d'autres chalutiers qui rentrent tous les jours et qui pêchent, par exemple, au port du Guilvinec, pas mal de langoustines. Ensuite, nous avons les beaux lyncheurs. Nous avons des caseilleurs, nous avons des filéeurs et puis des ligneurs. Donc ça fait en fait il y a beaucoup de métiers de la pêche représentés ici sur le quartier maritime du Guilvinec.
Alors, il y a d'abord une phase de pré-enquête avec des entretiens individuels ou collectifs avec des marins, des patrons, armateurs, des salariés d'armement. Et donc, il y avait une question très large, hein, c'est quoi votre vécu du travail ? Et en fait, au fur et à mesure des entretiens, une thématique commune a émergé sur leur vécu du travail. Et c'est la thématique commune, c'est la question de la relève. C'est-à-dire que bah, y a pas assez de jeunes qui prennent la suite dans le métier, pourquoi, etc. Donc c'est comme si la question de leurs conditions de travail, la question du modèle économique de la pêche aujourd'hui, la question des crises, tout ça, renvoyait aux jeunes. Et les jeunes, alors, pourquoi ils viennent pas c'est quoi leur demande et est-ce qu'on les accueille bien non, des fois, on ne les accueille pas, mais comment faire pour bien les accueillir, etc. Nos partenaires Prévention Santé avaient d'autres idées. Ils étaient plutôt dans la question de la conciliation vie familiale-vie privée. Sur ces questions-là, sur la question aussi du confort à bord ou alors la question des substances psychoactives pour tenir. Ces questions ont été évoquées dans les entretiens en pré-enquête, bien entendu, mais ce n'est pas la question commune. En fait, l'idée, c'était de trouver une thématique commune qui fasse consensus pour pouvoir poursuivre cette discussion collective. Et cette discussion collective, il y a eu un accord de la communauté, en fin de compte, qu'on a rencontré. Oui, on veut bien continuer à discuter entre nous sur notre vécu du travail en parlant de la relève. Et nous, ce qu'on veut, c'est parler avec les jeunes. Voilà, donc c'est très opérationnel parce que concrètement, quand il n'y a pas de jeunes, eh ben, au lieu d'être 5 à bord, il n'y a que 4 personnes à bord. Et donc, du coup, il y en a un qui enchaîne. Clairement, quand il n'y a pas de jeunes à bord, ça met vraiment les actifs dans une situation de grande difficulté, de charge de travail intense. Et le métier n'est plus supportable, en fait. Donc, c'est un vrai problème. Et aussi, ça interroge sur le sens. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes ? En fait, c'est une interrogation, c'est-à-dire c'est comme si c'est de jeter, en fait, c'est vous nous demandez à nous, nous marins pêcheurs, comment on vit notre travail. Donc, et quelque part, ça fait comme un effet miroir. Donc ce que vont dire les jeunes, c'est aussi ce qu'on ne veut pas forcément voir qui est si compliqué en creux, quoi.
Au quotidien, c'est vraiment un sujet prédominant. Et c'est un sujet qui se traite sur du moyen terme ou du long terme. Donc, je suis très contente que ça soit cette problématique qui soit ressortie, parce que c'est une vraie préoccupation du quotidien quand on discute sur le quai avec, avec les armateurs ou les patrons de pêche, sur un métier qui, pendant des années, se transmettait de père en fils, de famille en famille. Là, c'est quand même moins la tendance. Et puis, et par rapport au contexte actuel... c'est peut-être plus compliqué de se lancer maintenant dans une entreprise de pêche qu'il y a 40 ans. Donc, effectivement, il y a un problème de transmission du métier. Peut-être un déficit d'image du métier de marin-pêcheur. Et l'enjeu, je pense, c'est de réussir à créer des vocations et... Parce que c'est quand même l'enjeu majeur, au bout du compte, c'est quand même la souveraineté alimentaire de notre pays. Et ça, c'est un sujet primordial. On pourrait passer des heures à en parler.
Et pour parler de la relève, Pêche-Cœur a jeté ses lignes vers la jeunesse en prenant la direction du lycée maritime du Guilvinec pour y travailler avec des élèves volontaires qui se préparent au métier de la pêche. Nous avons pu les rencontrer.
Donc moi c'est Émeric Duport, donc, je viens de Montpellier, j'ai été attiré par la pêche par passion, parce que j'ai toujours aimé pêcher ou de travailler sur un bateau.
Moi je m'appelle Mathis Calves, je suis d'origine de Quimper, j'ai à Plomeur dans le Finistère, et depuis que je suis petit, j'ai dans ma famille, mon père, mon oncle, mes arrière-grands-pères, mes grands-parents qui sont pas dans ce métier-là, et du coup... quand j'allais les voir à la débarque, voir ce qu'ils pêchaient et tout. Et depuis que je suis petit, depuis mes 6 ans, j'ai envie d'aller en mer. Je rêve de faire ça. Pour moi, c'est même pas un métier, c'est une passion, quoi.
J'ai 19 ans et je suis en BTS pêche et gestion de l'environnement marin. Donc moi, je suis originaire de Douarnenez. J'ai choisi aussi cette vocation par passion. Pour tout ce qui est le monde maritime, je m'intéresse un peu à tout, quoi, pas que à la pêche. Je peux m'intéresser à la faune et la flore marine, comme j'aime bien pêcher du poisson à la canne ou en stage avec les patrons que j'ai pu rencontrer. Voilà, et moi, il y a personne de ma famille directe qui était dans le milieu, mais il y a des frères à ma grand-mère qui étaient marins de commerce, mais voilà. Ça remonte un peu.
Il y a eu un écrit, une synthèse, qui a permis ensuite d'avoir une discussion avec, sur des thématiques portant sur justement leur vécu du travail en stage, discussion avec des patrons pêcheurs armateurs, des patrons armateurs et des armateurs salariés, voilà, qui étaient très intéressés eux aussi pour avoir le retour des élèves sur leur vécu du stage, parce qu'ils n'imaginaient pas que les élèves pouvaient se poser telle ou telle question. Et par exemple, les élèves posaient des questions sur comment est-ce que mon corps va s'adapter, combien de temps le corps met à s'adapter pour tel type de pêche. Déjà quand on a 15 ans, le corps est en mouvement, enfin se transforme. Et voilà, ils ont pu poser cette question, les armateurs, ils disent, ah oui, c'est ça qui t'intéresse. Ok, ah oui, bah moi, pour tel type de pêche, ça a pris tant de mois, bah moi, ça a pris un an. Ah bon, d'accord, ok, bah voilà. Voilà, ce genre d'échange, ça permet de... juste de discuter des choses qui préoccupent en tout cas ces jeunes qui représentent une relève en tout cas.
Par exemple là on parle surtout des ambiances à bord, comment ça s'est passé nos stages, et on a un peu tous le même retour, chacun a une expérience différente, mais voilà, si ça s'est plus ou moins bien passé, la pêche comment c'était, l'entente avec l'équipage, c'est quand même assez important l'entente avec l'équipage. Parce que même s'il y a un super bateau et tout, c'est surtout le relationnel, mine de rien, un peu comme partout. Et voilà, et après, c'était un peu le devenir de la pêche. Nous, notre corps, comment on est à bord. Enfin, si on arrive à tenir le rythme, voilà.
C'est vraiment un honneur de les voir, parce que c'est des gens qui se sont beaucoup... investi sur leur travail et que qu'ils sont venus nous voir pour poser des questions, et moi ça m'a fait vraiment plaisir de les voir. Sur Pêche-Cœur, ce qui m'a attiré, c'était aussi comment on pouvait, pour dire que certains stages ne peuvent pas se passer bien, parce que moi en tout cas quand j'étais stagiaire sur un chalutier, j'ai été pris comme un salarié et pas vraiment comme un stagiaire, parce que c'est pas la même. Parce que les stagiaires ne sont pas pareils que les salariés. Ils sont pas les mêmes heures. Et c'est ça qui est un peu dommage.
Quand j'étais en stage, j'ai pas senti qu'ils étaient dans le besoin, quoi. Ils étaient contents d'avoir des stagiaires, quoi. Après, il y en a, ça les embête, quoi, parce qu'ils ont pas... C'est pas que ça à faire, de surveiller. Ils veulent plus gagner leur croûte, quoi, et... Du coup, il y en a qui disent « Ah, fais ci, fais ça », et puis il y en a d'autres qui sont intéressés, quoi. Si on va vers eux, ils vont nous expliquer comment on fait. Ils vont être contents de voir qu'il y a des jeunes qui veulent faire la relève. Le fait d'avoir vu des armateurs, pour moi, c'est pas très... C'est normal, quoi. Je trouve ça normal, parce que on est dans un lycée professionnel. C'est bien qu'ils viennent montrer qu'ils ont envie, qu'il y ait des jeunes et tout ça. J'ai envie de savoir pourquoi ils venaient, quoi. Pour savoir ce qu'ils avaient à dire, les questions qu'on avait à poser. Par exemple, pourquoi est-ce que les stagiaires, c'est quoi à bord pour eux?
C'est les armateurs qui ont dit, les armateurs du coin, ils ont dit qu'il y a un besoin de bientôt 50 marins. Il y a 50 marins qui vont partir à la retraite, donc il va falloir 50 autres. Donc là-dessus, on a vraiment de la chance, parce que c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui est en difficulté. En ce moment, par rapport à toutes les crises qui succèdent, c'est surmontable. Nous, on avait rencontré des patrons. Et en gros, ils avaient eu des crises et ils ont réussi toujours à s'en sortir. Il y a moyen de faire une belle carrière à la pêche.
Ce que j'ai entendu des gens dire que la pêche va mourir et tout ça, c'est que des nids. c'est rien. C'est certes, il y en a qui vont plus être pratiqués, comme le thon qui malheureusement, j'en ai entendu parler d'ailleurs, il y en a un thonnier qui était resté 4 semaines, ils n'ont toujours pas trouvé de thon. Donc on voit que comment on fait l'impact quand même, parce qu'il y a le changement climatique, tout ça et tout ça. Mais la pêche restera toujours, ça se renouvelle tout le temps, il y aura toujours des solutions. Et c'est pour ça que la pêche ne mourra jamais.
Il y a la question de la transmission du métier, et c'est vrai que pour certains pêcheurs, pas du tout, pas tous, hein, mais pour certains, clairement, la question se pose. Certains ont pu dire qu'ils n'avaient pas envie que leurs enfants fassent ce métier, parce que c'est dur pour beaucoup. Le métier d'aujourd'hui n'est plus comparable à celui d'avant. Il y a tellement de contraintes administratives ou autres, de restrictions des zones de pêche, de restrictions des quotas, avec aussi une mauvaise image dans l'opinion publique, etc. Donc c'est quand même très compliqué. Il y a la question de la transmission du métier et du sens du métier.
C'est vrai qu'on ne parle pas de relève dans les autres secteurs parce que je pense que déjà le problème ne se pose pas. L'arrivée imminente de l'absence de main-d'œuvre dans ce secteur-là fait que ça pose la question du renouvellement de la main-d'œuvre, simplement un constat démographique. Il y a une autre dimension, mais là c'est plus à titre d'hypothèse que je vais formuler ça, parce que là j'ai pas d'éléments empiriques, si ce n'est une intuition que je pourrais vous donner, mais c'est que ce sont aussi des métiers dans lesquels la dimension, si ce n'est familiale, en tout cas communautaire, est extrêmement importante. On a des gens dont les parents, enfin les pères souvent, étaient sur les bateaux, et dont les cousins, les cousines, les tantes travaillent à la confirmerie ou à la criée. Donc il y a un côté, moi je pense que cette question de la relève se pose comme ça, à la fois pour des raisons purement économiques et démographiques qui font que ce sont des métiers dans lesquels aujourd'hui on a de moins en moins de gens qui veulent y travailler pour des raisons de ce que ça rapporte par rapport à la difficulté du métier. Donc on constate que on va plus avoir de gens qui vont travailler dans ces secteurs-là, mais parce que se pose aussi cette question un peu de dynastie et de transmission intrafamiliale ou intergénérationnelle plus généralement dans ces secteurs qui sont à la fois très très ancré et très communautaire.
Si la mer est nourricière, elle est aussi une source de danger. Les métiers de la mer ne sont pas épargnés. En France, marin reste le métier le plus accidentogène. Et les lycéens, alors? Comment abordent-ils la question des risques en mer?
J'ai eu de la peur quand j'étais sur un chalutier. Des mauvais temps, c'est quand même impressionnant de voir que quand tu travailles dans un endroit où ça bouge beaucoup, quand tu vois les vagues, tu te dis, c'est comme si on était dans une marée de lave et que si tu tombes, t'es mort, quoi, on peut dire. T'es à peu près mort parce que s'il n'y en a pas un qui t'a vu, si personne t'a vu et tout ça, tu dis au revoir au bateau, tu vois. Mais ouais, c'est impressionnant.
Pour moi aussi, c'est pareil. y avait un peu d'appréhension parce que c'était la première fois que j'allais vraiment en mer, quoi, sans quelqu'un de la famille. Et puis, c'est une pêche que j'avais jamais fait. Du coup, appréhension, plus mauvais temps. Du coup, j'ai fait 3-4 jours et puis après, ça allait, je m'étais habitué. Après, travailler dans le mauvais temps aussi, il faut beaucoup faire beaucoup plus attention parce que. Il suffit qu'il y ait un mouvement de roulis et que on n'est pas sur nos appuis, on tombe, on peut se blesser, on peut se couper, on peut se casser un membre. Moi quand j'étais en stage, ouais, on avait tous VFI, casque. Du coup, moi j'avais pas peur, quoi. Après à bord, il y en a qui mettaient pas, mais après ça c'est eux qui décident, quoi.
Moi c'était aussi le mauvais temps, ça surprend. Ça surprend puisque quand t'es en stage et que tu vis du mauvais temps comme ça. Le patron te dit que ça va pour te rassurer. Lui, il a déjà fait pire, hein, sûrement. Mais tu sens que t'es. Qu'en fait, c'est pas toi qui a le. C'est la nature qui te contrôle, quoi. C'est pas toi avec ton petit bateau qui va faire comme tu veux, mais ouais, c'est quand même on est quand même vulnérable au mauvais temps. Mais après, ouais, comme disait Mathis, il y a les EPI qu'il faut, équipement de protection individuelle, et en gros les VFI, c'est les gilets de flottaison. Et après, donc ça, on les met, enfin moi je les mettais dès qu'on allait en manœuvre, à l'arrière ou sur le côté du bateau. Et après, on est quand même vachement sensibilisé par rapport à tout ce qui est sécurité. Enfin, on a beaucoup de formations. Après, même à bord, le patron, il te dit, tiens, tu portes ton VFI ou tu mets telle et telle tenue adaptée.
Bah moi, ma peur, c'est pareil aussi que sous mauvais temps, on perde un matelot ou un membre d'équipage, quoi, parce que si t'es patron et que t'es sous leur responsabilité, tu rentres au port, annoncer aux familles et tout que leur mari, leur fils, leur frère est mort. C'est pas non plus top, quoi. Et puis aussi, si on est patron et qu'on pêche pas, ça va mal se passer. Donc,
c'est de croiser les doigts, d'avoir une bonne pêche, parce que tu fais tout le chemin, mais tu fais une grosse épreuve pour avoir cette poisson, une petite paire. Donc, t'as bien les boules. Ouais, aussi, quand j'étais à mon chalutier, j'avais un second. Il avait plus que 4 doigts sur l'un des mains. Et c'était une rascasse qu'il avait piqué. Donc alors, moi j'étais comme ça avec mes petits doigts. Parce que les doigts sont précieux.
Si les lycéens témoignent bien de leur expérience et de leurs appréhensions face aux dangers de la mer, il y a quelque chose de plus fort. C'est simple comme le monde, ils rêvent. Ils rêvent d'aventure et d'océan. En langage terrien, ça s'appelle une vocation.
Bon, moi, ce qui me fait rêver dans la pêche, c'est plus tard d'avoir mon bateau, les seineurs, les thoniers, là, en Afrique. Moi, je rêverais bien d'être patron sur ça pour gagner plein de sous, profiter. Et après, vu que c'est une passion, j'aime bien ce type de pêche, donc c'est la pêche au thon. C'est pas les mêmes conditions, quoi. Il fait chaud, il fait pas tout le temps beau, mais il y a aussi du mauvais temps, mais il fait chaud là-bas comparé ici. C'est pas pareil, c'est continent africain.
Moi, le rêve, ce serait déjà, avec grâce au métier, de découvrir le monde par la mer. De bouger, pas que rester ici en Bretagne. C'est pas que j'aime pas la Bretagne, au contraire, hein. Mais j'aimerais bien découvrir le monde. Et il y a aussi un peu ce côté pêche au thon là qui m'attire. Et même tout ce qui est la grande pêche ou même les bateaux de commerce, que ce soit les porte-conteneurs ou les vraquiers ou etc., les pétroliers. Mais ouais, c'est voyager avec le métier et rencontrer du monde, d'autres cultures et aller dans les mers chaudes et ouais, pourquoi pas être patron ou commandant sur un bateau de pêche au thon ou au commerce.
Moi, j'étais fan d'un film qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Et la première chose que j'ai pensé, c'était être comme le Jack Sparrow, fidèle à sa barre, en train de naviguer de port en port. Moi, je me suis toujours senti comme ça, en fait, aussi, être marin. C'est que je me dis, tiens, à côté, je fais la pêche, mais aussi, je peux me balader, quoi. L'aventure, le sentiment, le vent que tu sens, la mer qui est bonne. C'est comme tu sens que t'es bien, que tu sens vivre même avec ton équipage. Un jour, quand je serai capitaine, quand j'aurai un équipage, on se fera la fête, on se fera des trucs de ouf. Et puis, c'est une aventure. Marin, c'est une aventure. Même s'il y a eu mauvais temps et que ça fait un peu peur et que c'est impressionnant, et c'est ça qui est bon.
Voilà, le projet Pêche-Cœur a donc livré sa problématique, la relève, question essentielle pour le maintien des métiers de la pêche, mais aussi pour leur transformation. Un terrain de recherche qui n'aura pas été si simple à explorer, mais qui plante bien le décor d'une filière pêche qui cherche à se renouveler avec sa jeunesse. Et c'est ce que nous disent Stéphanie Brûlé-Josseau et Karine Olivier pour terminer cet épisode de La Recherche Autrement.
Il y a toujours eu un intérêt pour le projet et pour parler de son vécu du travail, contrairement à des représentations que des gens nous avaient dit, mais les pêcheurs, ils vous parleront jamais, c'est une culture virile, ils ne parlent pas. Bah si, en fait, il y a aucun souci. La difficulté, c'est à nous de nous adapter autant des aux contraintes des patrons de pêche. On a tenté de faire des entretiens collectifs avec des patrons de pêche, donc deux entreprises de pêche différentes, mais qui partageaient l'envie de s'entretenir entre patrons de pêche, les mêmes problématiques sur le même métier du chalut. Donc il y avait 7 inscrits, mais pour plein de raisons en fait. Pourtant c'était normalement la bonne période, c'était juste avant Noël, ils devaient être là, etc. Et puis en fait, hop, juste quand on avait prévu la date, eh bien il faisait beau alors qu'il y avait du temps, du mauvais temps, donc ils étaient tous partis en mer. Sur les 7, il y en a eu 2, mais ils étaient très contents en fait d'avoir participé. Mais par contre, par rapport au dispositif expérimental où on a un binôme avec Pascal, on vient exprès, on doit prévoir et tout, c'était pas adapté. Il aurait fallu, je sais pas, des années, où il aurait fallu qu'on vive ici sur place pour pouvoir, donc ça, pour pouvoir en fait proposer ces espaces de discussion. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une démarche d'expérimentation, donc on tente quelque chose qu'on a imaginé. On le teste.
Les dynamiques de recherche-action, elles raccourcissent un peu le calendrier, mais c'est vrai qu'elle permet aussi, hein, si j'utilise un peu des poncifs qu'on a tendance à donner sur la recherche, qu'elle permet aux chercheurs de sortir de sa tour d'ivoire, quoi, et de voir un petit peu plus directement les effets de ces travaux sur le terrain. Ça permet également de mettre en contact les acteurs, hein, de la société civile avec ce qui peut être fait à l'université. Donc déjà, eux, leur permettre de se mettre, comme dirait Stéphanie, mettre en recherche et donc d'avoir une réflexivité, eux, par rapport à leurs propres pratiques, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est pris dans sa vie quotidienne. Ça, moi, c'était important pour moi de valoriser scientifiquement, hein, je veux dire, ce qu'on a fait sur ce projet-là. C'est notamment ce qui a donné lieu à la communication. Que nous avons faite, enfin que j'ai faite en notre nom collectif lors du congrès Ocean Next 2024 qui s'est tenu à Nantes au mois de juin. Donc déjà la communication était une manière de valoriser cette participation-là. On en est presque finalement aux prémices du traitement de la question, puisque c'est le projet Pêche-Cœur a été une manière un peu de faire le diagnostic de comment aborder ces sujets-là. Et la construction progressive de la problématique de la relève fait qu'aujourd'hui, on est sans doute armé pour savoir comment aborder la question, mais le projet arrive à sa fin, hein, pour des questions de financement, et que donc ça vaudrait presque le coup de se relancer dans autre chose pour pouvoir y aller à fond et avoir matière finalement à publication.
Ce reportage a été produit et réalisé par la Corlab avec le soutien de la Région Bretagne. Pour plus d'informations sur le projet que vous venez d'entendre et pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur corlab.org.